Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro 176, nous sommes en février 2021 et je remercie très chaleureusement les auditeurs qui soutiennent l'émission puisqu'il y a G-Wade, Sébastien Flory, Intuit 3000, Jules, Pierre-Alain Baron, Quentin Deleuil et un nouveau producteur, Claude Girel. Claude Girel qui est le producteur de cette émission aujourd'hui spécialement, où on va parler du State of Play de la semaine dernière, qui était peut-être un tout petit peu décevant. On va parler aussi de PlayStation VR. Et oui, il n'est pas mort, ce PlayStation VR. On a aussi un nouveau Pokémon, des nouvelles rumeurs pour la Nintendo Switch, des chiffres pour le marché du jeu vidéo en France. Et tout ça, c'est grâce aux Patriotes, notamment Claude et tous les autres qui soutiennent l'émission. Donc, merci à vous tous. Et en plus de ça, j'ai le plaisir toujours renouvelé de recevoir dans cet épisode, d'une part, Jika. Comment ça va, Jika ?
Ça va, et ça va très bien. Et toi ? Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous.
Bonjour à tous et à toutes. Et bonjour à la chatroom qui me fait remarquer qu'on est en mars et pas en février. C'est fou, ça ! Je pensais qu'on était en... Non, bon, déjà. Je me suis trompé. Déjà. Donc, merci, Jika. Tu me confirmes que tu avais un meeting super secret avec un produit qui va être annoncé bientôt.
T'essayes.
Que ça n'est pas, ce n'est pas la Nintendo Switch, la nouvelle. Donc, j'espérais un instant. Non, c'est vrai que les rumeurs dont
même
on va parler...
Même si ça pourrait avoir un lointain rapport, on va dire.
Ah ah, d'accord, ok. Bon, ça donne des infos. On a également Chloé qui est avec nous. Comment ça va, Chloé ?
Ben, ça va très bien.
T'es en forme ?
Ouais, bah écoutez, je suis ravie de vous rejoindre pour cette émission. Et oui, on est déjà en mars, on ne s'en rend pas compte cette année. Oui. Passe à la fois très vite et très lentement, c'est étrange, mais oui, bientôt un an que nous sommes dans le monde du Covid.
En confinement, écoute, c'était il y a à peu près un an que j'ai dû annuler mon voyage au Japon à l'aéroport après avoir passé la sécurité, et c'était il y a presque un an. Et à l'époque, je pensais que le fait d'annuler un voyage au Japon était certainement le plus grand malheur qui pouvait arriver au monde, tu vois. J'étais tellement inconscient de ce qui nous attendait, c'était bon, le bon vieux temps, on va dire.
Bon. N'importe quand on avait pour un mois ou deux, et puis après, ce serait bon, quoi.
Oui, ça, je t'avoue que ça, j'y ai jamais cru, hein, je t'avoue, mais bon. Donc, on a State of Play, PSVR, Pokémon, rumeurs Switch, chiffres, plein de choses dont on va vous parler. Donc, on va se lancer immédiatement avec le State of Play de la semaine dernière. Alors, on en parlait un petit peu dans l'épisode précédent, on faisait des prédictions. Et en gros... Je pense qu'on peut dire qu'on a été un petit peu déçus si on attendait quelque chose.
Quel euphémisme.
Bon, il y a eu quelques annonces tout de même, mais dans l'ensemble, c'était quand même... En gros, ce qui était décevant, c'est qu'on a eu ni Horizon Zero Dawn, enfin Horizon Forbidden West, ni God of War Ragnarok, rien du tout. Ce qui me laisse d'ailleurs penser que on se dirige peut-être vers un décalage de God of War à 2022, possiblement. Je pense que je verrais bien Horizon pousser à la période de Noël et God of War sur 2022 pour tout un tas de raisons que je détaille d'ailleurs dans une vidéo sur ma chaîne YouTube que vous pouvez aller voir si vous voulez. Mais au-delà de ça, il y a eu, en gros, on nous a parlé un petit peu de Kena, un petit peu d'un nouveau jeu qui s'appelle Sifu, qui a l'air assez cool. On va peut-être revenir dessus un peu plus en détail, mais surtout de Final Fantasy VII Remake, qui a une version PS5 qui arrive. D'ailleurs, dans l'after show de l'émission dernière, Ludovic avait bien vu. Il avait eu super juste sur ce sujet. Donc, bravo à lui. Et Intergrade, qui est un DLC payant payant pour Final Fantasy VII Remake. Ça laissait penser à un moment que c'était gratuit, mais ce n'est pas le cas. Mais qui sera exclusif à la PlayStation 5. Et ça, c'était, on va dire, la grosse annonce de ce State of Play. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont parlé plus que d'autres dans les annonces qu'on a eues au final ? Peut-être Chloé, ouais, vas-y.
Non, bah écoute, bon, la grosse annonce c'était FF7, donc pour te dire que la grosse annonce c'est un DLC payant réservé à la PlayStation 5, c'est pour dire à quel point les annonces étaient au top. Non, ce que, puis oui aussi quand même la dose d'ibuprofène qu'il faut pour comprendre en fait que alors oui, FF7 Remake sera disponible dans le PlayStation Plus au mois de mars, mais cela ne vous offre pas l'accès à l'upgrade PlayStation 5 qui lui est réservé aux personnes qui ont payé le jeu sur PlayStation 4, mais ils peuvent aussi le racheter sur PlayStation 5 et auquel cas ils peuvent acheter le DLC Yuffie, mais le DLC Yuffie n'est pas disponible pour les personnes qui ont seulement le jeu sur PlayStation 4. Bref, c'était un petit peu compliqué.
Tu l'as très bien expliqué, mais en gros, l'upgrade PS5 est gratuite pour ceux qui ont acheté la version PS4, et du coup, ça nous donne la possibilité d'acheter le DLC Yuffie exclusif à la PS5, puisqu'on a la version PS5, mais le jeu sur PS4 est également offert pour le PS Plus de ce mois-ci, de mars, mais sans upgrade PS5 gratuite.
Oui, donc, et ce qui est super, je pense, qui va encore plus emmêler les pinceaux, c'est que comme vous savez, tous les jeux PS4, vous pouvez y jouer sur PS5. Donc si vous êtes abonné PlayStation Plus, vous aurez accès à FF7 Remake, mais avec les légères améliorations qu'apporte automatiquement la PlayStation 5, mais ce n'est pas pour autant que vous aurez le droit aux vraies améliorations PlayStation 5, qui, ouais, elles, sont payantes. Enfin bref, c'est un... Mais je pense qu'on est encore parti pour au moins un an. Comme ça, en fait, le temps que vraiment la transition se fasse vraiment entre les jeux PS4 et les jeux PS5, on va se prendre la tête entre les updates spéciales PlayStation 5, les updates automatiques, parce que bon, on l'a quand même vu, enfin pour les rares personnes qui ont la chance d'avoir une PlayStation 5, ça se voit automatiquement. Enfin, il y a plein de jeux qui sont améliorés rien qu'au niveau du framerate. Parfois, c'est le jour et la nuit, sans qu'il y ait besoin d'un développement supplémentaire de la part des équipes. Donc voilà, en fait, c'est une prise de tête incroyable pour, ouais, pour s'y retrouver. Donc là, je pense que là, cette présentation, ça a été le summum, voilà, pour montrer un petit peu toute la complexité de cette transition entre la génération précédente et l'actuelle.
Donc, bon, il a l'air cool, c'est... ce DLC Yuffie, quand même. Je pense que ça va pousser des gens à... Ça fait un petit truc en plus pour la PS5. J'imagine bien que Sony a payé un petit peu d'argent pour ça, quand même. Mais ouais, donc est-ce qu'il y a d'autres choses ? Pardon.
Non, je dis juste, après, je vois beaucoup de gens aussi qui sont en train de rager sur ce DLC parce qu'ils aimeraient beaucoup y jouer, sauf que comme vous le savez, trouver une PlayStation 5, c'est un peu une galère actuellement et que ça va pas s'arranger dans les mois qui viennent, tout ça à cause de ces maudits semi-conducteurs. Bref, donc ouais, il y a un petit peu de frustration là-dessus. Non, sinon, ce que j'ai retenu d'autre de ce live, la musique super cool pour Deathloop. Voilà, même si j'ai l'impression de voir toujours un peu la même vidéo de gameplay.
Ouais, Deathloop, moi j'en ai un petit peu ma claque, parce que on sait toujours pas ce que fait. Alors je sais que le game director, je crois, a fait un petit laïus sur ce qu'était le jeu au final, mais on a très peu d'informations sur ce qu'est le jeu. À chaque fois, ils nous font des présentations hyper stylisées, très cool. Mais au bout d'un moment, j'aimerais bien savoir ce qui fait que on a eu du gameplay, mais du moment-to-moment gameplay, du combat FPS, voilà, simple. Mais on ne sait pas ce qu'est cette loupe, ce que sont les deux personnages, comment ils interagissent. Enfin, on ne sait rien, quoi. Donc, moi, ça me frustre un peu. Et il sort bientôt.
Peut-être je vais laisser Chloé finir, je parlerai un petit peu après, mais vas-y, bah, Chloé, si tu veux terminer.
Sur Deathloop, allez-y, on va faire une... On peut en parler.
Ouais, si en fait, effectivement, c'est un peu le problème qu'a souvent Arkane, c'est que ils font des jeux géniaux, moi, c'est un de mes studios préférés, mais ils ont beaucoup de mal à l'expliquer, à les vendre, en fait. Après, c'était pareil, Dishonored, bon, même, et en plus, Deathloop, ça l'a encore plus, particulier comme concept. Et c'est vrai que, donc, le directeur du jeu, Dinga Bakaba, il a fait une vidéo il y a pas longtemps où il explique quand même un peu plus le concept. Ouais. Et on est vraiment sur un jeu un peu à la Dishonored où on a des cibles à abattre dans un monde qui a l'air plus ou moins ouvert. Donc, on fait un peu ce qu'on veut là-dedans. Donc, c'est vraiment la recette Arkane. Régulièrement, à chaque fois qu'on va mourir, en fait, On va recommencer et les cibles seront pas au même endroit. Il y aura d'autres événements qui vont se passer, etc. Donc il y a un petit côté un peu presque roguelite, j'ai envie de te dire, mais voilà. Après c'est vrai que l'implication du deuxième personnage, elle est pas claire. On n'a même pas compris si ça pouvait être incarné par un autre joueur ou si c'est un truc purement solo. Je pense que c'est un truc purement solo a priori. Moi tout ce que je sais, c'est que c'est un jeu Arcane, c'est la science du level design d'Arcane et tout. Donc je sais que ça va forcément me plaire. Moi je l'attends vraiment beaucoup. Mais par contre j'ai peur qu'effectivement ils arrivent encore pas à le vendre suffisamment et que beaucoup de gens passent à côté à cause de ça, quoi.
Alors on nous confirme dans la chatroom que c'est solo et multi, donc on a le choix de jouer en solo ou de jouer.
Voilà,
multi.
Ok, d'accord.
Très bien, merci. Okay. Chloé, ouais.
Non, j'allais faire du mauvais esprit en disant que ça allait terminer de toute manière dans le Game Pass d'ici un an ou deux, donc les gens pourront jouer à des sous, même s'ils n'ont pas compris, mais c'est vrai que moi aussi, je trouve que pour le moment, ce n'est pas super clair.
Ce n'est pas clair. En plus, Arcane qui va appartenir à Microsoft, donc oui, dans le Game Pass, c'est certain.
Ah bah c'est certain, c'est certain. Ouais.
D'autres choses ?
Mais pour le moment, voilà, vu que ça reste encore une exclue PlayStation, bon, ce sera dans quelques temps, ce ne sera pas pour tout de suite.
Ouais.
Alors oui, j'ai trouvé ça cool que mais ça c'est personnel, hein, que Oddworld Soulstorm soit inclus dans le PlayStation Plus. Voilà, je trouve que c'est un cadeau sympa et c'est bien ce que le PlayStation Plus là, parce qu'on a quand même vécu plusieurs mois où c'était quand même, on va le dire, pas terrible, hein, les jeux qui étaient offerts. Et là, on sent que là, bon, FF7 remake, une nouveauté, Oddworld Soulstorm, c'est comme si on essayait de compenser le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de nouveautés PlayStation 5 et qu'il faut un petit peu occuper les gens. Voilà,
on en parlait dans l'after show la semaine dernière. Il y a un papier de Kassim Ketfi, notre ami, qui décrit assez bien les situations, qui dit que Sony est en train de pousser le PS Plus avec des jeux récents pour contrer le Game Pass et que c'est leur réponse au Game Pass et qu'ils n'auront pas leur propre Game Pass. Je crois que clairement, c'est en train de se vérifier. Il a eu le nez creux. Je suis pas convaincu qu'il y aura pas de réponse au Game Pass, mais clairement, on est dans une période où le PlayStation Plus est, on va dire, de qualité supérieure à ce qu'on a pu connaître. Moi, je suis pas du tout client de Oddworld et Soulstorm ne m'attire pas vraiment. Donc, bon, c'est pas forcément mon truc, mais clairement, c'est des bonus de... Comment dire ? Ça a une certaine valeur qu'ils sont en train de nous donner sur le Game Pass. Le Game Pass, le PlayStation Plus. On s'est compris. Donc oui, Oddworld, c'est cool. Tu fais partie des gens qui l'attendent vraiment ou c'est juste assez cool qu'il soit sur le Game Pass ?
C'est vraiment le côté Madeleine de Proust. Hein,
J'ai redit Game Pass, pardon. PlayStation Plus, c'est fou. Oui, c'est Madeleine de Proust, ouais.
Oui, bah ouais, parce que j'ai joué au premier, du coup, donc là, c'est une sorte de remake amélioré. Tu vois, quand j'étais gamine, j'y ai joué, j'avais adoré, je l'ai fait plein de fois. Donc voilà, c'est le côté un peu cool. En fait, c'est typiquement un jeu, pour ça, je trouve que c'est un jeu Game Pass, dans le sens où c'est un jeu, je ne sais pas si je l'aurais forcément acheté ou je l'aurais acheté en attendant qu'il soit en solde. Et là, bon, le fait qu'il soit offert, je suis très, très heureuse. Voilà.
Alors...
Comme ça, je vais le faire sans me poser de questions.
Il y a un terme officiel, Chloé, pour ce genre de jeu, c'est un terme officiel reconnu par tous les plus grands experts du jeu vidéo et les analystes du monde entier, que c'est un terme que j'ai évidemment créé, ce sont les jeux passables, tu vois, c'est les jeux que tu n'aurais pas forcément à
jouer,
mais que
t'es content
d'avoir dans le Game Pass, les jeux passables, c'est pas parfait ça ? Écoute... Que je suis sûr que tu l'adores, Chloé, ça te laisse sans voix, donc je te donne l'autorisation de l'utiliser gratuitement sans avoir à payer de royalties, les jeux passables. Bref, continuons, je me suis pris un vent. Il y a d'autres choses qui étaient intéressantes, j'ai trouvé. Kena Bridge of Spirits, qu'on attendait quand même pas mal.
C'est mon problème de Discord qui revient.
Ah, mais Chloé, évidemment, la seule raison pour laquelle tu ne trouvais pas mon expression absolument formidable, c'est que tu ne m'avais pas entendu. C'était la seule explication possible. Merci bien.
C'est du même niveau que l'excuse, je passe sous un tunnel, tu vas content de me rapprocher.
Exactement.
Mon Discord ne marche pas.
Ouais. Tu nous entends maintenant, Chloé ? Ton Discord remarche ou pas ? Bah écoutez, nous on va continuer alors avec Kena Bridge of Spirits qui a été une grosse attente.
Voilà,
ça y est, c'est bon, t'es là.
Bah en fait, j'utilise la même astuce que la dernière fois, c'est-à-dire que je suis branchée sur le son avec Twitch.
D'accord, ça va pas super bien se passer parce que tu as quand même un gros décalage sur le son.
Voilà, donc excusez le petit décalage.
D'accord. Bon, écoute, on va essayer de faire comme ça alors, mais je le prendrai en compte dans nos discussions. Mais du coup, l'autre truc dont je voulais parler, c'est que Kena, on avait pas mal d'attentes dessus. Vous vous souvenez, il avait été présenté avec la présentation de la PlayStation 5 il y a bien longtemps. Les graphismes sont absolument époustouflants. Et le truc qui m'a vraiment plu dans cette présentation du State of Play de la semaine dernière, c'est le fait qu'on ait vu un petit peu de gameplay. Et il y a effectivement du gameplay. C'est un jeu d'action. C'est un jeu d'action à la troisième personne. Alors, on n'a pas vu beaucoup, hein, mais il a l'air d'être vraiment un vrai jeu où on va jouer avec du gameplay, quoi. Donc, je suis très curieux d'en savoir plus. Rien que la beauté fera que ça sera sans doute une expérience plaisante, mais à savoir si ça sera un bon jeu ou pas, bah, il faudra voir ce que donnera le gameplay.
Ouais, ça a l'air très sympa, mais ça a l'air d'être un jeu plutôt classique et mais qui va surtout miser tout sur sa réalisation technique et sa bonne ambiance. Voilà, quand on voit le truc, on a l'impression d'avoir déjà joué à ça 10 fois, mais le fait que ce soit une exclu PS5, il sort sur PC aussi, ça fait envie, parce que c'est vrai que ça a une bonne tête.
Ouais, c'est vraiment très très beau.
Moi, ce que je retiens, si je peux...
bien sûr, bien sûr.
Après, j'imagine que tu allais en parler, mais moi, je t'avoue que Returnal me branche de plus en plus. Parce que déjà, c'est un jeu inédit, c'est pas une suite, etc. L'univers a l'air vraiment très cool et j'aime beaucoup cette idée d'une boucle. Alors, c'est encore une fois, c'est un roguelite, ça me rappelle un peu Risk of Rain 2, notamment, parce que c'est en 3D sur une planète inconnue. Mais il y a l'air d'avoir, déjà, c'est super beau, il y a l'air d'avoir une super direction artistique. Ils ont montré un petit peu dans le trailer qu'il y avait quand même de la narration, il y avait un vrai scénario. Et en plus, ça a l'air hyper nerveux en termes sur les combats. Donc, moi, je sais que ça va être l'exclu PS5 que je vais choper. Alors, on va attendre de voir les reviews, mais que je vais probablement choper à Day One, quoi.
J'avoue que.
Ouais, je suis aussi curieuse de ce jeu.
Vas-y, vas-y, Chloé.
Non, je dis, je suis aussi curieuse de ce jeu. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Donc, aussi, petite curiosité là-dessus.
L'expertise technique de Housemark, je pense, n'est plus à prouver. Ils font des jeux d'action, des shoot-em-up généralement qui sont vraiment excellents, ou en tout cas techniquement qui sont très péchus. Et là, on a ça en 3D, en roguelite, ce qui peut être vraiment sympa. Mais il y a aussi un élément qu'on n'avait pas vu avant, qui est un élément d'histoire du jeu. À un moment, elle va visiter cette maison dont elle ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans. Enfin, il a l'air d'y avoir un petit peu plus que simplement la partie je shoot, je meurs, je recommence. Et il a l'air d'avoir un petit
attirail. C'est ça que je trouve hyper intéressant. Ouais. C'est ça que je trouve intéressant. C'est pas juste un roguelite sans narration. Il a l'air d'avoir une idée de scénario derrière. Et t'as l'impression que c'est une espèce de mélange de philosophie à ce que se dit fait très bien depuis maintenant très longtemps, les jeux Naughty Dog, les jeux Santa Monica, où vraiment il y a quand même un focus sur l'histoire. Et à côté, du roguelite, voilà, comme c'est très à la mode en ce moment, en 3D, hyper nerveux et tout. Et peut-être que le mélange va pas du tout marcher, je sais pas. Mais moi, ça m'attire vraiment beaucoup.
Moi aussi, on est d'accord. Et le dernier truc dont je voudrais parler, je crois que c'est le dernier, c'est... Alors, il y a d'autres petites choses. Il y a Solar Ash, le jeu des développeurs de Hyper Light Drifter. Ça ne m'a pas énormément parlé. Ça sera peut-être super cool, mais à ce stade, c'est difficile de le dire. Le nouveau Five Nights at Freddy's, qui a l'air tout aussi terrifiant que d'habitude, qui a été présenté un petit peu plus cette fois-ci. Knockout City, qui est le jeu qui avait été présenté pour le Nintendo Direct, le jeu de balle aux prisonniers, qui avait l'air un petit peu plus cool que ce qu'on avait vu. En tout cas, on comprend un petit peu plus de quoi il s'agit que ce qu'on avait vu dans le Nintendo Direct. Il y aura une bêta qui arrive sur PlayStation une bêta du jeu en général qui est sur toutes les plateformes début avril. Donc, on pourra tester ça. Bon, c'est un jeu multi de balle aux prisonniers, pourquoi pas. Mais surtout, moi, ce qui m'a intrigué, c'était Sifu, le nouveau jeu des développeurs de Absolver, de la Slow Clap Team, qui est un petit peu dans le style graphisme de Absolver. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était un petit jeu, hein, mais c'est un jeu d'action, de combat, visiblement, de kung-fu. Et je ne sais pas la dynamique du kung-fu de ce jeu a l'air hyper sèche, nerveuse, un petit peu comme dans les meilleurs films chinois, de kung-fu chinois. Et j'ai très hâte de voir ce que ça donne concrètement, parce que le dynamisme des chorégraphies de combat est un petit peu... J'ai jamais vraiment vu ça dans un jeu vidéo avant, donc je suis très curieux de voir ce que ça donne.
À moi, ça m'a beaucoup fait penser au film The Raid.
Complètement, complètement.
Ah bah oui, carrément. Ouais. Bah c'est ça, c'est The Raid, c'est All Boy aussi, le plan séquence de All Boy. Il y a vraiment ce côté, c'est une espèce de violence sèche en plan séquence, tu vois, qu'on a typiquement dans ce genre de film. Ça fait envie carrément.
Ouais, bah après je suis aussi intriguée avec ce personnage qui semble vieillir à chaque fois qu'il tombe KO. Enfin, je me demande qu'est-ce qu'il va y avoir comme mécanique narrative derrière ça. Mais j'ai aussi été assez impressionnée. Ça a l'air ultra dynamique, comme tu dis. Et j'ai vraiment eu l'impression de revoir The Raid, qui est quand même un film génialissime que j'adore et que j'ai toujours pensé que c'était un jeu vidéo, en fait, The Raid. Mmh. Parce que tu as vraiment une structure en niveau avec des demi-boss, des boss, le boss final. Enfin, quand je l'ai vu au cinéma, je me dis, OK, bon, c'est un jeu, quoi. C'est structuré comme un jeu. Donc, je suis ravie que ça devienne un jeu. Voilà, même si ça ne donne pas son nom. Mais en tout cas, assez impatiente aussi de voir ça tourner en vrai.
Je suis très curieux aussi. Il faut que j'aille revoir The Raid, il est vraiment bien. On prend les paris, c'est un roguelite ou pas ?
C'est compliqué, c'est très compliqué.
On sait pas, non mais c'est pour ça.
Savoir.
Si on le savait, ça serait pas marrant.
Moi, franchement, j'espère pas. Voilà, pour le coup, j'ai envie d'un truc un truc linéaire à la Street of Rage, tu vois, avec des niveaux et des décors différents à chaque fois. Et voilà, j'ai pas spécialement envie que tout. Enfin, la sauce roguelite, en même temps, j'ai cité Return que j'attends, tu vois, mais ça marche pas forcément avec tout, quoi.
Oui, et puis il ne faut pas non plus faire tous les jeux à cette sauce-là, ça commence à être un peu lassant. Quoi.
C'est ça, exactement.
D'accord. Bah, écoutez, moi, juste pour ça, je vais dire oui, je pense que c'est un roguelite. C'est tellement, il faudra qu'on en reparle un jour, mais c'est tellement un avantage énorme pour les développeurs, surtout les petits développeurs, de faire un roguelite. Ça donne une rejouabilité énorme, mais bon, on verra. En même temps, quand il vieillit, il a l'air de se réveiller dans un endroit où il a déjà avancé dans le niveau, donc peut-être pas. Et puis, il vieillit jusqu'à quand ? T'as combien de vie ? Ou bon, bref. On verra, c'est intriguant. Donc voilà, je crois, pour ce State of Play. Comme je le disais, la grosse déception, c'était l'absence des AAA, mais il y avait quand même un petit peu... il y avait de quoi manger un petit peu quand même. La chose qu'on n'a pas dit, c'est que Kena Bridge of Spirits a une date de sortie le 24 août. Soulstorm, on l'a dit, le 6 avril. Et je ne crois pas qu'on ait une date pour Final Fantasy Intergrade, ou peut-être qu'on en a une... Je ne sais plus.
Je
si
crois
c'est
qu'il y,
le cas.
Y en a une. Il y en a une. Si, c'est au mois de juin.
D'accord.
Oui, c'est au mois de juin.
Très bien, mois de juin, parfait. Donc voilà, pour le State of Play, c'était quand même pas rien du tout. On a d'ailleurs, en parlant de PlayStation Plus pour ce mois-ci, Destruction All-Stars est toujours inclus. On a aussi Remnant from the Ashes qui est inclus. C'est un gros jeu d'il y a quelques temps, mais c'est quand même un jeu qui avait fait un petit peu de bruit. Peut-être pas un gros jeu, mais qui avait fait du bruit quand même. Et Maquette, qui a l'air un petit peu intriguant, un jeu de puzzle avec des perspectives où on rentre dans une formation... Enfin, comment dire ? Il y a une maison, et quand on rentre dans la maison, il y a tout le niveau qui est encore dans la maison, et si on déplace quelque chose dans la petite maison, c'est déplacé aussi dans la version grande du truc. C'est un peu surprenant comme mécanique, et c'est inclus dans le PlayStation Plus.
Ouais, ça a l'air très chouette. Il vient d'être testé chez nous, là, chez jeuxvideo.com, et justement, là, je suis tombé sur le test ce matin, et il a pris 15 sur 20, apparemment, c'est très sympa. Et tu vois, ça ne me branchait pas trop, et bon, en plus, j'avais oublié qu'il était offert ce mois-ci, donc je pense que je vais aller allumer ma console dès que cette émission est terminée.
Très bien. Eh bien, écoute, on va avancer. Du coup, on va parler de PSVR. On avait évoqué très rapidement la semaine dernière le fait que le PSVR 2 avait été annoncé par Sony. Et là, on a des annonces PSVR et VR en général. Plusieurs jeux qui ont été annoncés. Je ne vais pas tout détailler parce que franchement, il n'y en a aucun qui soit absolument invraisemblable pour des gens qui ne sont pas déjà fans de VR à la base, je crois. Il y a I Expect You to Die 2, il y a Fract qui est un FPS assez ambitieux, il y a Zenith qui est carrément un MMO complet en VR qui a l'air lui aussi relativement ambitieux. Il y a Song in the Smoke qui est un jeu d'aventure sur PSVR et Oculus. En gros, ce qu'on retient, il y a Doom 3 et édition VR qui arrive, Doom 3 d'il y a quelques temps. Mais ce qu'on retient, c'est que pour le coup, c'est une vraie confirmation entre ces annonces et le fait que Sony travaille sur le PSVR 2 pour dans 2 ou 3 ans, hein, c'est pas pour tout de suite, mais avec tout ça, c'est vraiment la confirmation que Sony n'abandonne pas du tout la réalité virtuelle. Et du coup, je suis curieux de savoir ce que vous pensez de la chose, quoi, parce que c'est vrai que la VR était un petit peu, on va dire, stagnante ces derniers temps, mais là, ça lui redonne un petit coup de fouet. JK, est-ce que ça te rend plus optimiste pour l'avenir de la réalité virtuelle en général ?
Bah, écoute, ouais, je suis assez content depuis quelques temps, là. La VR, c'est vrai que ça n'a pas été une très bonne année. Enfin, ça fait quelques temps, c'est vrai qu'on en parle un peu moins. T'as l'impression que ça marche pas trop, mais en fait, finalement, si. Y a eu notamment le succès, presque surprise, du Quest 2, là, apparemment, qui cartonne. Et là, derrière cette annonce, pareil, surprise de la suite du PSVR, pas mal de jeux. Et je suis hyper content parce que je pense que Sony, bah, avec le PSVR 1, malgré le fait qu'il avait ses limitations techniques, il a largement participer à démocratiser la réalité virtuelle dans les foyers, parce que beaucoup de gens l'ont acheté. C'est le seul casque aujourd'hui qui est disponible sur console. Et par rapport à ce qu'ils ont fait sur la PS5, moi je suis très 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 curieux de voir le PSVR 2, notamment tout ce qui est retour haptique, parce qu'ils ont dit qu'évidemment ils allaient utiliser la technologie DualSense, et clairement la DualSense et le PSVR sont même en interne, c'est très lié, parce que il y a donc, je pense que dans le conducteur, t'en parles tout à l'heure, mais t'as la team Asobi qui est derrière tout ça, en fait. La team Asobi, ils ont travaillé sur le DualSense, ils ont travaillé sur le PSVR, ils ont fait Astrobot. Donc, ils ont moyen de faire, je pense que ce que personne n'a encore réussi à faire aujourd'hui, c'est des contrôleurs vraiment, vraiment pensé pour la VR, avec en plus des sensations de retour haptique qu'on n'a pas aujourd'hui forcément sur les autres contrôleurs. Donc moi, c'est surtout cet aspect-là qui m'intéresse le plus sur le PSVR 2. Quoi.
Chloé, VR sur PSVR 2, t'es partante ou c'est pas trop ton truc ?
Alors, ce que j'espère déjà, c'est ce qu'ils ont déjà dit, mais tu vois qu'au moins au niveau des branchements, ce soit beaucoup plus simple que sur le premier PSVR.
Ça compte énormément. Hein.
Ce grand moment Ikea que j'ai vécu quand j'ai reçu le casque pour réussir à tout brancher et pour me rendre compte que j'avais oublié une pièce au bureau, donc j'avais dû retourner au bureau à toute vitesse parce qu'il me manquait un truc pour le brancher chez moi. Donc ouais, il y a ça. J'espère que le prochain casque sera plus simple d'utilisation. Alors je vous avoue que sur la VR, au début, j'étais assez enthousiaste, et ce qui a douché mon enthousiasme au bout de quelques temps, c'est que j'ai fini par être malade. Et notamment, en fait, la dernière fois que j'étais malade, c'était sur le PSVR, c'était sur un des jeux Sony. Vous savez, il y avait une compilation qui était offerte avec le PSVR, ouais. des démos, et en fait il y en avait une, c'était une sorte de FPS, mais en 2 minutes c'était terminé. Donc j'ai trouvé ça dommage, en fait, que ce soit un jeu Sony fait pour montrer les capacités du PlayStation VR qui m'est mis par terre. Mais littéralement. Donc j'espère que là-dessus tout ça sera bien amélioré, en tout cas que les jeux qui sont dessus, on fera un peu plus gaffe à ce qu'il n'y ait pas trop d'effets cinétos, parce que moi, c'est vraiment malheureux, parce que j'étais très fière de dire que moi ça me faisait rien du tout, le mal de mer, je connais pas, je suis ultra résistante à tous ces trucs, et qu'en fait ça a fini par me toucher.
Ouais.
Ce qui est intéressant, c'est de voir que le PlayStation VR bouge encore, il n'est pas mort. Ce qu'on aurait pu croire. Donc après, ils ont annoncé 4-5 jeux, pas non plus énormissime. Je pense que les vraies cartouches, ce sera pour le PlayStation VR 2. Là, on devrait bénéficier en plus d'un bon technique assez intéressant.
C'est certain. Et tu dis, il bouge encore. À ce niveau, aujourd'hui, c'est un petit peu comme ça qu'on peut le définir, mais comme tu le dis, le PSVR 2 ayant été annoncé, c'est plus qu'il bouge, il bouge encore. Là, au contraire, je trouve que c'est une affirmation de Sony qui déclare sa confiance à la réalité virtuelle. Ils ont même développé un jeu, ils ont restructuré, comme tu le disais, tu évoquais la team Asobi, JK, ils ont restructuré Sony Studio au Japon, et en gros, c'est Nicolas Doucet, c'est ça, de la team Asobi. Son équipe.
Tout à fait. Ce qui est malheureux pour les autres studios, mais c'est vrai qu'ils montrent qu'ils veulent concentrer leurs efforts sur probablement PSVR et les licences qui vont avec. Quoi.
Ouais, j'imagine, ouais.
Mais après, ouais, je suis désolée, en fait, je suis ultra prudente par rapport à la réalité virtuelle, parce que je me suis fait avoir une fois, il y a quelques années, quand tout le monde annonçait que ça allait être la révolution, ça allait être dingue, que waouh, on n'avait rien vu et que ça allait bouleverser tout le marché. Au final, rien. Donc voilà, je reste maintenant, je suis un peu chat et chaudé, vous voyez. Donc,
je comprends. Hein. Mais tu sais, pour moi, ça y est, la révolution, elle a eu lieu, en fait. Et maintenant, ouais. En fait, la VR, elle est installée. Elle est pas aussi éclatante en termes de visibilité, en termes de succès que ce qu'on a espéré. Mais pour moi, c'est un truc qui est installé, qui est en parallèle du jeu vidéo classique qui a son succès et qui va continuer comme ça. En fait, je pense que ça n'explosera jamais. Enfin, ça n'explosera, ça va progresser petit à petit, tu vois. Mais pour moi, la révolution, elle a eu lieu, quoi. Mais
je pense qu'elle a eu lieu, qu'elle est là. Et contrairement à d'autres technologies dont on pourrait parler, elle a pas disparu parce que certains pensent ah, ok, ça y est, la VR, c'est mort. Moi, je pense pas. Elle est là, elle reste là. Mais surtout, pour moi, le fait que Sony ait annoncé le PSVR 2 et ait annoncé une série de jeux maintenant, ça veut dire qu'ils vont pas s'arrêter, tu vois. Ils vont continuer dans 2 ans, il y en aura peut-être d'autres, enfin, clairement, pour arriver avec le PSVR 2. Et donc, ça redonne un élan à toute la filière de la réalité virtuelle, je crois, vraiment. Je crois qu'elle est installée, mais elle a un potentiel pour redevenir quelque chose de plus important grâce à ces annonces de Sony. Enfin bon, je pense. Bref, on verra ce que ça donne, mais c'est en tout cas enthousiasmant pour les gens qui apprécient la réalité virtuelle. Ça leur redonne de l'espoir. Au niveau matériel, on va tourner un petit peu la page de Sony et ouvrir celle de Nintendo, puisqu'on a un nouveau rapport de Bloomberg qui vient... En fait, on parle de la Switch Pro depuis des mois et des années même, et ces derniers temps, on commençait à se dire « Bon, bah, en fait, finalement, Nintendo n'en a pas besoin. Ils vendent tellement de cartons entiers de Switch à chaque fois qu'ils bougent le petit doigt qu'ils ne vont pas faire la Switch Pro. » Enfin, elle arrivera à un moment, mais a priori, ça ne sera pas cette année. Et un rapport de Bloomberg de cette nuit nous indique que la firme de Kyoto, je vais commencer à utiliser ces images-là, la firme de Kyoto a commandé à Samsung environ 100 000, pour le départ, 100 000 écrans OLED 7 pouces 720p. On imagine bien qu'ils ne vont pas faire un, comment ça s'appelait, Nintendo Sleep 2, et que donc ça sera pour faire une nouvelle version de la Switch. Donc 7 pouces, c'est un petit peu plus que la Switch actuelle qui fait 6,2 pouces. On est toujours en 720p, mais c'est un écran OLED. Et leur source pense également qu'il y aura une sortie 4K sur cette nouvelle Switch, une sortie 4K quand elle est branchée à la télé. C'est hyper intéressant, je détaille les choses là encore sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez aller y jeter un coup d'œil, comme toujours, youtube.com/notepatrick, et sur ce qu'on peut conclure de ces annonces-là. Mais ce que ça voudrait dire, c'est ce qu'ils disent chez Bloomberg, selon leurs sources, début de fabrication en juin, livraison aux assembleurs en juillet, et donc sans doute arriver sur les étals de nos boutiques qui auront réouvert d'ici là, peut-être début d'automne, courant d'automne. Et ça voudrait dire que peut-être, effectivement, si c'est confirmé, il y a toujours une chance que ça ne soit pas le cas, mais Bloomberg, comme je le disais, c'est des gens sérieux, ça pourrait vouloir dire qu'on aurait effectivement un nouveau modèle de Switch qui ferait la 4K en fin d'année, on va dire.
J'avoue, bon, il y a tellement eu de rumeurs autour de la Switch Pro, la Switch 4K, la Switch... Ouais. Enfin bref...
Encore une fois, chat et chaudé, quoi.
Voilà, chat et chaudé, moi, je dis, on verra quand elle sera là. Ensuite, sur une sortie en fin d'année, c'est extrêmement logique. Enfin, voilà, c'est là où ils vendent le plus de cartons de Switch. Donc ça me paraît pas, voilà, ça me paraît pas déconnant que ça sorte à cette période-là. Et après, quand on regarde voilà, les spécificités qu'a sorti Bloomberg, en fait, c'est pas... tant une nouvelle Switch que moi ça me fait penser à la 3DS XL, donc ça va être un écran plus grand et un écran de meilleure qualité, et on va s'arrêter là en fait au niveau, enfin ça va pas être une console plus puissante.
Ouais, c'est ça. Je sais même pas si elle va changer de nom en fait, tu vois.
Bah, en fait ouais, je suis même pas sûr qu'elle change de nom au final.
Tu sais, il y a 2 ans, ils avaient sorti la Switch avec l'autonomie qui était 2 fois plus élevée.
Oui.
Ils l'ont pas renommée. Alors là, bon, c'est quand même une différence qui est un peu plus grosse. Parce que moi, par contre, ce que j'ai du mal à croire, c'est la capacité à afficher la 4K sur la télé. Parce que même si techniquement elle peut le faire, je vois pas comment la puce Tegra à l'intérieur est capable de faire tourner déjà que parfois le 1080p c'est compliqué, je vois pas comment elle pourrait afficher de la 4K de manière fluide.
Alors c'est ça, non mais c'est ça qui est clé dans cette discussion. Si effectivement elle affiche la 4K quand elle est connectée à la télé, comme l'affirme Bloomberg, ça veut dire qu'il y a une puce différente, que ça soit en 4K natif, c'est peu probable, ou en DLSS, c'est plus probable, bah ça sera une puce différente, voilà, à l'intérieur. Et du coup, s'il y a une puce différente à l'intérieur, une nouvelle version du Tegra, est-ce que ça veut dire qu'on aura aussi des améliorations graphiques potentielles? Bah peut-être. Donc il y a une sorte d'effet cascade là. Si c'est de la 4K, elle peut pas, la Tegra actuelle, la puce qui est actuellement dans la console, ne peut pas afficher la 4K, c'est juste pas possible. Donc s'il y en a une nouvelle, est-ce qu'ils utiliseront la puissance de cette nouvelle puce pour d'autres choses que juste la 4K? Il est possible qu'ils disent non, on veut garder une parité avec toutes nos consoles, mais ça serait quand même bien dommage de mettre une nouvelle puce plus récente, plus puissante, plus capable, pour ne l'utiliser que pour faire de la 4K, quoi. Mais peut-être.
Bah après, j'ai envie de dire, souvenez-vous, c'était la New 3DS, je crois, c'était son petit nom. Ou pareil, elle était plus puissante que la 3DS, mais le parc installé de 3DS était tellement énorme qu'au final, il y a très très peu de jeux qui ont profité des capacités supérieures. Enfin,
je pense que ça serait différent, ça serait fait différemment.
Sur cette est exclusif à cette console.
Bon, écoutez, on verra, mais en tout cas, là, c'est un vrai rapport sérieux, fiable, de commandes d'écran. Enfin, des rumeurs d'un rapport, des rumeurs sérieuses de commandes. Bloomberg, ils ne disent pas ça quand ils ne sont pas à peu près sûrs de leur cours. Ils peuvent toujours se tromper, mais ils en sont à peu près sûrs.
À titre perso, une Switch avec un écran OLED un peu plus grand, là ça me vendurait vraiment, parce que je suis nostalgique de la PS Vita qui avait un écran OLED, en tout cas une certaine version de la PS Vita qui avait un écran OLED. C'était un vrai plaisir en termes de rendu et tout. Et en plus, moi qui joue à la Switch 90% du temps, voire 99% du temps en mode portable.
Moi, c'est le contraire. J'y joue sur la télé, donc c'est la 4K qui me vend du rêve. T'imagines, Super Mario 3D World en 4K, quel bonheur. Breath of the Wild 2 en 4K, oh, ça serait magnifique. Bon, donc ça, c'était pour la Switch. On a aussi d'autres choses dont on doit parler du côté de chez Nintendo. Il y avait un Pokémon Direct il y a quelques jours de ça, une vingtaine de minutes, essentiellement pour célébrer les 25 ans de la licence Pokémon. Et ils ont annoncé deux choses principales. D'une part, un remake de Pokémon Pearl et Pokémon Diamond Pearl et Diamant sur Nintendo Switch, évidemment. Shining Pearl et Brilliant Diamond, un truc comme ça, c'est des trucs brillants. Et surtout, Pokémon Legends Arceus, qui est... alors, je vais faire dans le facile. Pokémon Legends Arceus... Ça, c'est un petit peu Breath of the Wild Pokémon. Je suis sûr que tout le monde a fait cette comparaison. Je suis pas un très grand fan de la série Pokémon. Je suis toujours passé à côté, donc je suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler. Mais j'ai trouvé un peu moche quand même Pokémon Legends Arceus.
Ah non, mais c'était très très moche, on peut le dire.
On est d'accord, merci.
Non, après, c'est pas non plus la spécialité de Game Freak de faire des beaux jeux. Hein. Enfin, ça se voit quand même un petit peu. Bon, sauf là, les versions Switch sont plutôt cool. C'est plutôt joli, ouais. C'est rond, ça fait dessin animé, c'est plutôt sympa. Mais sinon, les anciens Pokémon, quand même, ça brillait pas par une puissance technique renversante. Hein.
Quand on est dans un monde ouvert en 3D, en tout cas, ça a l'air d'être un petit peu un monde ouvert, c'est comme ça qu'ils décrivent en 3D, je trouve que la mochitude choque un petit peu plus que dans les jeux
après,
en 2D.
On peut se dire, voilà, ce qu'ils nous ont montré, c'est vraiment de l'early, le truc est encore loin d'être terminé. Donc oui, parce qu'en fait, plus que la mocheté, en fait, moi, c'est plus le framerate qui m'a fait peur. Parce que dès que le personnage va dans les hautes herbes, alors là, ça y est, c'est le chute de framerate de folie. Donc ouais, ça, puis j'ai trouvé ça aussi assez terne au niveau des couleurs. Je sais pas, j'aurais imaginé quelque chose un peu plus chatoyant, en fait, pour l'univers Pokémon.
Mais bon, là, on s'attarde aux détails graphiques qui n'ont évidemment aucune importance dans le plaisir du jeu, hein, comme le savent les vrais joueurs. Mais c'est quand même monumental comme événement. C'est Pokémon... une vraie nouvelle formule de Pokémon qui fait des choses différentes, qui fait de la 3D, du monde ouvert. On est dans ce qu'espéraient les fans et les non-fans de la série. C'est un moment... on pourrait parler de Pearl et Diamond si vous voulez aussi, mais c'est celui-là qui est un moment, je ne sais pas, quand même marquant, non ?
Ça fait, je sais pas, 25 ans, du coup maintenant 20 ans que je pense que les fans de Pokémon, alors non, spoiler, je ne fais pas partie, se plaignent que bon, c'est quand même toujours la même formule qu'on leur vend. Bon là, c'est vrai que c'est chouette de voir qu'ils tentent une direction différente. Après, bon voilà, on a juste eu un aperçu. Il faudra voir comment tout ça sera géré. Mais oui, ça va être intéressant à suivre. Et je pense que si la formule monde ouvert marche bien et qu'il y a vraiment un plaisir d'exploration, qu'il y a un monde vraiment sympa à découvrir, je pense que ça pourra attirer au-delà de la Pokéfan base qui est déjà énorme, hein, mais ça pourrait être attirer des gens qui, bah, comme moi ou comme d'autres, se disent non, mais bon, Pokémon, en plus, je maîtrise pas, hein, j'ai jamais vraiment joué, je maîtrise pas trop, j'ai pas envie de commencer par. Je vais me sentir un peu exclu, je connais pas toutes les subtilités. Donc là, s'ils réussissent un peu à renverser la formule. Exactement, ouais.
J'ai une théorie du complot dont vous allez me dire si vous y souscrivez. Il est quand même très moche, il y a des framerates pourris et il est censé sortir début 2022. Est-ce que début 2022, ça ne serait pas le moment où une Super Switch est disponible ? Et du coup, cette version sur l'ancienne Switch, elle est un petit peu moche. Mais sur une Super Switch, ça serait bien plus beau.
J'espère qu'ils n'oseront pas faire ça.
je suis un petit peu méchant là, mais peut-être, on ne sait pas. Bon, il sera certainement optimisé, amélioré d'ici là.
S'il y a peut-être un jeu qui profiterait de cette éventuelle nouvelle Switch avec des améliorations, c'est plus Breath of the Wild 2, tu vois, qui est plus une vitrine technologique que Pokémon. Que ce jeu Pokémon, tu vois.
Ouais. Les deux, hein, ouais. L'un n'empêche pas l'autre.
Les deux, certes, oui, certes, les deux, mais bon. Mais moi, je suis un peu comme Chloé, enfin, là, t'es mal tombé. Moi Pokémon et moi, ça fait quatre, tu vois, donc je suis très content qu'il y ait l'open world, hein, mais ça dit, elle a pas tort, ça peut, que l'open world, s'il est bien fait et tout, ça peut attirer des nouveaux joueurs, donc bon, peut-être moi, on sait jamais, tu vois.
Ouais, c'est possible. Bon, écoutez, ça fait beaucoup de news principales, beaucoup de news qu'on voulait évoquer. Je vais faire un tout petit moment de pause pour vous parler de Patreon. Vous savez ce que c'est Patreon ? Patreon, c'est le moyen de soutenir le rendez-vous jeu. Vous écoutez l'émission depuis un moment, vous appréciez, vous trouvez ça sympa, marrant. Eh bien, peut-être que vous voudriez participer à la vie de la communauté et avoir des bonus super sympas, comme par exemple le fait d'avoir les épisodes sans pub, sans cette promotion au milieu de l'épisode, avec des timecodes pour passer d'un moment à l'autre de l'émission que s'il y a des passages dont vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous pouvez aussi avoir les after-shows, où on parle avec la communauté de tous les sujets différents, de tous les sujets qu'on a évoqués dans l'émission, et d'autres sujets aussi. C'est un petit peu le moment détente cool où on est tous ensemble, donc vous pouvez l'écouter ou même y participer si vous accédez au niveau supérieur du soutien. Mais dans tous les cas, la chose la plus importante, c'est quoi ? C'est le fait de soutenir le produit, enfin le podcast, la création que vous aimez, que vous appréciez. Si vous pensez que je fais un bon boulot, si vous écoutez l'émission avec plaisir toutes les semaines, eh ben peut-être que vous aurez envie de me soutenir. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez tout à fait écouter gratuitement, comme le font beaucoup d'entre vous. Mais si vous voulez témoigner de l'appréciation que vous avez pour le travail que je fournis, eh ben vous pouvez décider d'aller sur patreon.com/rdvjeux et de voir s'il y a un niveau de soutien qui pourrait vous intéresser. Vous pouvez choisir combien vous donnez, vous pouvez choisir quand vous vous arrêtez, vous gardez entièrement le contrôle. Donc un grand, grand merci à tous ceux qui soutiennent le rendez-vous jeu sur Patreon.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, on va parler maintenant de nos jeux du moment. J'ai envie de me tourner vers JK. Est-ce qu'il y a, t'as toujours des jeux auxquels moi, je n'ai pas forcément pensé, enfin régulièrement. Est-ce qu'il y a des jeux auxquels tu joues en ce moment qui t'ont...
Je suis le mec qui vient avec des jeux chelous à chaque fois.
Mais, je ne voulais pas le dire comme ça.
Non,
mais...
Alors, écoute, je vais faire vite. Tu sais qu'en en ce moment, en fait, j'ai rattrapé pas mal de retard sur des jeux, d'il y a des fois 2 ans, 2, 3 ans. Alors, je vais juste repasser dessus, mais j'ai enfin fait un entier contrôle et là actuellement, je suis sur Outer Wilds. Donc bon, vous en avez déjà parlé et contrôle notamment, c'est vraiment un super jeu quoi. Et en fait, si j'en parle, c'est qu'il était offert le mois dernier sur PS5 dans sa version. Amélioré avec du ray tracing et tout, et avec tous les DLC. Et si vous l'avez chopé et que vous n'y avez pas encore joué, franchement, sur PS5, je vous conseille vraiment de jouer à Control parce que c'est un excellent TPS. Moi, par contre, si je peux vous parler d'un jeu qui est sorti en accès anticipé il y a quelques temps maintenant, je ne sais plus exactement quand, qui s'appelle Prodeus, P-R-O-D-E-U-S.
Ok.
On l'avait vu vite fait passer lors du PC Gaming Show ou du Summer of Gaming, enfin je ne sais plus, là, l'été dernier, quand il y a eu plein de conférences. Là, en fait, Prodeus, c'est un FPS au style un peu rétro, mais qui veut vraiment ressusciter, enfin en tout cas, qui est dans l'esprit de Doom et du Doom de 94. Donc, ça passe par évidemment des graphismes en 3D moderne, mais un style graphique très science-fiction, démons, etc. Beaucoup de gore. Le jeu est d'une violence assez incroyable, avec des effusions de sang de partout. Par contre, il y a un truc très sympa, je trouve, artistiquement parlant, c'est que tous les ennemis et les animations des armes sont faits dans une sorte d'animation en stop motion. T'as l'impression que c'est du stop motion, donc t'as l'impression de combattre des créatures issues de vieux films fantastiques, genre les films de Ray Harryhausen, ce genre de trucs. Donc ça donne une patte, je trouve, artistique au jeu qui est très sympa. Les armes sont géniales, les armes sont top. Enfin, chaque arme a vraiment son intérêt. On passe son temps à changer d'arme pour s'adapter à la situation et tout ça. C'est très cool. Alors, c'est en accès anticipé, donc il n'y a pas énormément de niveaux. On fait le tour de la campagne de ce qu'on en a aujourd'hui en quelques heures. Par contre, et c'est pour ça que je parlais de l'esprit Doom des années 90, c'est que le jeu est fourni avec tous les outils pour créer des niveaux. Et il y a déjà une tonne de maps faites par la communauté qui sont hyper cool. Donc en fait, si vraiment vous aimez le genre du fast FPS hyper nerveux, hyper bourrin, et que bah voilà, vous adorez Doom et ce genre d'ambiance, honnêtement, Prodeus, c'est vraiment un jeu à suivre, parce que au-delà du contenu solo qui est déjà assez qui est pas très conséquent, mais qui est très bonne qualité, vous avez vraiment cet esprit communautaire très chouette, et puis un jeu qui est mis à jour souvent parce qu'on est toujours en accès anticipé quoi. Donc je vous le conseille, c'est un jeu bon pour un public très, très ciblé, mais c'est vachement bien.
Oui, effectivement, on a vraiment l'impression de jouer à Doom des années 90. Hein. On est clairement dans ce...
Ouais, c'est ça, avec un style d'animation assez cool. Enfin, ouais, non, moi j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé.
D'accord. Prodeus, super, merci beaucoup JK. Chloé, est-ce qu'il y a un jeu auquel tu joues en ce moment qui vaut le détour ?
Bah écoute, en ce moment, je joue en parallèle à deux JRPG qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Le premier s'appelle Bravely Default 2.
On espérait que quelqu'un parlerait de Bravely Default 2. Donc...
Le deuxième s'appelle Yakuza 7 ou Yakuza Like a Dragon. Donc, je peux vous dire que le grand écart est total entre les deux.
Dis-nous quelques mots sur les deux. Bravely Default vient de sortir et Yakuza Like a Dragon vient d'avoir sa mise à jour PS5 sur PS. Il est déjà sur Xbox Series X, mais il vient d'arriver sur PS5 à proprement parler. Mais commençons par Bravely Default, du coup. C'est quantité, known quantity, on sait à quoi s'attendre ou il y a des surprises quand même?
Ah non, il n'y a aucune surprise. Après, bon, pour moi, c'est un JRPG à l'ancienne pour les vieux qui aiment les vieux JRPG à l'ancienne, mais avec une patte graphique d'aujourd'hui. Donc voilà, vous avez les combats au tour par tour, vous avez le système de job qui remonte à Final Fantasy III, vous avez une vibe très Dragon Quest sur plein de choses, donc il faut faire, alors ce que je déteste, c'est-à-dire du farming, donc c'est-à-dire monter en niveau, monter vos jobs, faire plein de combats, comme ça vous êtes au niveau pour battre les boss qui sont un petit peu relevés. Donc ça on aime, on déteste, sachant quand même que le jeu vous aide un peu en vous permettant de mettre les vitesses de combat en x4 par exemple, donc ce qui permet de farmer très 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 rapidement face à des ennemis voilà, qui sont peu puissants, voilà, vous lancez automatiquement attaque, vitesse x4, vous enchaînez, et pour ça, ça m'a rappelé le premier Bravely Default dont je me souviens que je faisais des séquences de farming pendant mon petit déjeuner. Voilà, pendant que je mangeais mes céréales en parallèle, voilà, je faisais du farming parce que c'était assez simple. Et en fait, le jeu, je trouve qu'il oscille entre le beau mignon et le franchement moche. Donc, c'est très, très bizarre. Parce que tout ce qui est les villes, tout ça, c'est vraiment très joli, les environnements. Par contre, les modélisations 3D des personnages, mais je les trouve affreuses. Ça fait vraiment cheap. Et en plus, là, je joue en mode portable. J'ai pas osé mettre sur grand écran, parce que je pense que là, c'est la 4K, on veut pas hein, sur ce genre de choses. Et les donjons aussi sont assez moches et n'ont pas vraiment de grande imagination. D'autant que, en fait, c'est des donjons qui essayent d'être labyrinthiques. Sauf que tu as une boussole qui t'indique par où passer, donc en fait c'est un peu bête.
Ça sent
le bon chemin, c'est par là.
Le design, ils ont fait des donjons complexes et labyrinthiques, et puis ils se sont dit ouais non mais en fait.
On va montrer qu'en fait c'est pour prendre l'escalier là-bas en fait pour accéder à la suite. Donc voilà, donc, et par contre Yakuza 7, mais je l'adore comme jeu.
Excuse-moi, avant de finir sur Bravely Default 2, du coup tu l'aimes ou tu le trouves bien? C'est un bon JRPG de ce type-là, ou parce qu'on a l'impression que tu l'as plutôt critiqué là dans ta description.
Ah ben non, mais j'essaye d'être objective sur le D'accord. produit, mais après non, mais je pense là j'ai à peine commencé, donc je verrai au fur et à mesure. Moi, ce que j'attends surtout, c'est le scénario, parce que bon, ça reste quand même une composante essentielle pour moi d'un RPG. Il faut quand même que le scénario soit intéressant. Donc là, pour le moment, je suis encore au début, donc c'est très très classique, genre oh là là, les héros de la lumière qui vont retrouver les cristaux pour rétablir l'ordre dans le monde. Bon, bah ça, c'est la sauce classique des vieux Final Fantasy, mais ce qu'on recherche aussi, hein, c'est ce côté un peu old school. Mais bon, il paraît que le scénario finit par être beaucoup plus intéressant.
Est-ce qu'il y a un amnésique ou pas?
Non, est-ce qu'il y a un héros amnésique? Écoute, t'as un héros qui en fait s'est noyé. Donc techniquement il est mort, mais il a été ramené à la vie par un cristal. Voilà.
D'accord, mais il se souvient de sa vie d'avant ou il s'en souvient pas?
Il se souvient de sa vie d'avant, mais visiblement sa vie d'avant on s'en fout. Voilà.
D'accord, d'accord. Okay. C'est un petit peu genre reset quoi, d'accord. Ok, bon, parle-nous du coup de Yakuza Like a Dragon, on en a déjà beaucoup parlé dans l'émission, hein. Les gens
Royaume
sont généralement
déchu,
très fan de Yakuza Like a Dragon. Est-ce que t'as l'air d'être très très fan aussi?
Alors, Yakuza, j'avais pas fait les anciens, et là, franchement, j'adore parce que j'aime beaucoup ce côté, on reprend les éléments clés d'un JRPG classique, mais intégré à la vie réelle. Donc, par exemple, il y a un système de job, exactement comme dans Bravely Default, voilà, vous pouvez changer de job, sauf que pour changer de job, vous allez voir votre conseillère Pôle emploi. C'est que des trucs comme ça. Et ce qui fait que c'est très, très ancré dans la vraie vie. Aussi, un autre truc que j'aime beaucoup, le fait, c'est le casting de personnages, parce que c'est que avec des profils de personnes qu'on ne voit jamais dans un jeu vidéo. Donc, c'est-à-dire un mec qui sort de prison, un SDF, une nana qui bosse dans des bars à hôtesse. Et ce qui fait que le scénario est super intéressant parce que ça s'intéresse un peu, au Japon d'en bas. Et à plein de problématiques qu'on ne voit pas généralement dans les autres jeux vidéo. Et puis l'ambiance est toujours super loufoque, enfin, ça oscille entre le loufoque et le très très sérieux. Et franchement, moi je m'amuse. Alors là, je fais du farming, mais parce que les combats sont tellement absurdes avec tous les loupards que vous croisez dans la rue, enfin, c'est très très drôle. Donc c'est vraiment, je passe un très très bon moment sur Yakuza 7.
Est-ce que c'est une version qui vaut plus le coup en PS5? Est-ce que tu sens une vraie différence en version PS5 ou t'as peut-être pas essayé la version PS4 en même temps?
Écoute, moi je suis sur la version Xbox Series X.
Ah d'accord, okay.
Voilà. D'accord. Donc je joue à la supérieure version depuis, depuis quelques mois. C'est juste, bon, j'avais le jeu, mais j'ai un seulement, enfin là, je l'ai commencé vraiment sérieusement il y a quelques semaines.
D'accord.
Et donc, ouais, ah bon, ça m'a pas l'air non plus fondamental, hein, les changements par rapport à la current gen. Voilà, ça.
Ouais.
Mais c'est un jeu super cool.
On sent que c'est le jeu qui a été converti, entre guillemets, un petit peu rapidement, et ça change pas. Ça change pas énormément, on va dire. Merci bien. Pour ma part, j'ai joué à deux choses. J'ai joué à Outrider, dont la démo est sortie la semaine dernière, qui est un petit peu Destiny de Square Enix fait par People Can Fly. En gros, c'est un petit peu, on va dire, un mélange entre Gears of War et... oui, je vais dire comme ça. Gears of War, Destiny et même... merde, le jeu d'Ubisoft. Comment il s'appelle ? Le jeu d'Ubisoft,
The Division,
voilà. Voilà, c'est un petit peu un mélange entre tout ça. Et moi, je n'ai pas vraiment accroché. Alors, je n'ai pas été super méga loin dans la démo, mais j'ai trouvé ça un petit peu faible au niveau du gameplay. J'ai trouvé que le design, c'était vraiment soit t'es hyper puissant et t'as besoin de te soucier de rien, en fait, et tu restes un petit peu loin, tu tires sur les gens, tu restes devant eux, et puis tu vas finir par leur enlever plus de points de vie que eux ne t'en enlèvent, ou alors c'est ultra méga dur et t'arrives à rien faire. Beaucoup de gens sont très positifs sur le jeu, il y a plein de gens qui l'aiment bien, donc peut-être que c'est moi qui ne suis pas allé assez loin, ou je ne sais pas, mais j'étais un petit peu déçu quand même par le gameplay. Je trouve que ça ne tient pas suffisamment le reste du jeu. Il y a une histoire qui a l'air pas trop mal foutue, l'introduction c'est quand même assez frustrant, on arrive sur une nouvelle planète, on est comme toujours le reste de l'humanité, et qu'est-ce qui se passe dans les premières secondes? Tout le monde se fout sur la gueule, on est genre exilé de la terre détruite, et la première chose que font les gens, c'est ils se tirent dessus. Bon, ok, d'accord. Mais bon, bref, il faudrait que j'essaye un petit peu plus, mais j'étais un petit peu déçu du truc. Il apporte pas grand chose. Il y a pas un truc où je me dis ouais, le feeling du gameplay est top, donc j'ai envie d'y jouer plus, ou ouais, le système de combat est intéressant. C'est vraiment du third person cover shooter à la Diablo, quoi. Voilà. Et ça, cette description, ça pourrait être super bien et ça peut être quelconque. Moi, je le trouve plutôt quelconque à ce stade, mais encore une fois, j'ai joué quelques heures, donc je ne sais pas si ça s'améliore ensuite. Ce genre de jeu juge vraiment sur la longueur. Donc, c'est vraiment mes premières impressions. Et puis, j'ai joué une classe. Peut-être que cette classe n'est pas la plus fun à jouer. Il y en a 4 de disponibles, et puis la démo est disponible partout, donc vous pouvez aller tester. Et l'autre jeu auquel j'ai joué, c'est, tenez-vous bien, quand on parle de jeux un petit peu anciens, Street Fighter V, parce qu'il y a eu un tweet de mon ami Yann Allais, qui a annoncé au monde, il y a quelques jours, qu'il avait atteint le rang Gold sur Street Fighter V, après genre 4000 combats. Et il m'a inspiré, Yann, il m'a inspiré pour que je retourne dans le jeu. Et donc, j'ai refait quelques parties de Street Fighter et je me suis vraiment amusé. J'avais un petit peu oublié le plaisir du combat versus sur Street et de la qualité du jeu, parce que j'aime beaucoup Tekken, j'aime beaucoup Street Fighter, et c'est un style de jeu très différent, mais Street est très carré, fin, précis, et puis j'ai beaucoup joué à Street Fighter et j'ai eu le grand plaisir de voir que au niveau auquel j'étais, c'est-à-dire niveau le plus bas de tout le online play, et ben j'avais pas tellement perdu de capacité. Je suis encore à peu près à ce niveau, qui est vraiment, encore une fois, tout en bas. Mais souvent, on se dit peut-être que sur ce genre de jeu, quand on ne joue pas pendant longtemps, eh ben, la communauté, forcément, il ne reste que des gens qui ont joué très très longtemps et qui ont... les gens qui ne jouent pas trop ont arrêté de jouer parce que le jeu est quand même sorti il y a 5 ans. Et du coup, les gens qui restent, ils sont très bons. Et donc, au fur et à mesure du temps, bah, le niveau général du jeu remonte. Et bien là, en fait, non, je suis heureux de vous dire que le jeu n'a pas tellement remonté. Je suis toujours, toujours potable pour mon niveau très bas. C'est-à-dire que les gens qui étaient bronze à l'époque sont toujours bronze aujourd'hui. Ce n'est pas que les gens qui étaient bronze à l'époque ont disparu. Et tout le silver est descendu au niveau bronze, on va dire. Donc... Bon, en plus de ça, il y avait une update récente, là, il y a 2 semaines, qui a mis à jour une grosse partie du jeu. Ils ont dû décaler sans doute le développement de Street Fighter VI, qui prenait un peu plus de temps, qui ne sera annoncé que l'année prochaine. Donc, ils ont rajouté une nouvelle saison pour Street Fighter V. Et il y a eu toute une série d'updates qui sont assez cool. Et donc, ça a peut-être ramené du monde en plus. Mais bref. Rien d'incroyable, mais juste, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à jouer à Street Fighter. Je suis en train d'arriver au moment où je rage aussi beaucoup. Genre, je commence à être impliqué dans le truc et quand je perds une partie de ranked, je me dis « Ah merde, j'aurais dû réussir, là c'est super cheap qu'ils font. » Mais je me rends compte aussi que je suis très mauvais. Donc, je connais suffisamment le jeu pour savoir que s'il y a genre un personnage que je ne maîtrise pas qui est contre moi, je ne vais pas savoir le contrer. Et comme il y a genre maintenant, je ne sais pas, 40 personnages en tout ou 50, il y en a souvent que je ne connais pas. Donc bon, bref.
Street Fighter, c'est un cas hyper intéressant parce que c'est quand même un jeu qui revient très loin. Hein. Moi, je suis très éloigné de ce jeu. J'y ai pas joué. Je suis pas du tout un spécialiste. Mais toi, peut-être que tu peux. Enfin voilà, c'est pas drôle. On est quand même pas passé loin de la catastrophe avec les Street Fighter 5 au lancement en tout cas. Et ils se sont vachement rattrapés, non ?
Alors oui, au lancement, c'était un lancement vraiment catastrophique. C'est pas qu'on n'est pas passé loin, c'est qu'on était en plein dedans. C'était un problème non seulement pour le jeu lui-même, les gens étaient déçus qu'il n'y ait pas une grosse partie solo qu'ils ont bien rattrapé depuis, mais ça, c'était dans la première année. Hein. Mais en plus, il y avait des gros problèmes de réseau, énormes problèmes. C'était impossible de jouer pendant des semaines. Et c'est clair que là, on est à un niveau où on a rattrapé tous les problèmes. Alors le design du jeu fait encore, si on va parler de la communauté du versus fighting, il y a beaucoup de gens qui pensent que le jeu est trop aplati, il n'y a pas assez de skills et ils ont voulu le rendre trop accessible et donc les gens qui sont de très très haut niveau n'ont pas suffisamment de différenciation dans leur performance. Alors oui, ça a l'air de faire le consensus, donc j'imagine que c'est le cas. Moi, à mon niveau, ça ne change rien du tout. Hein. Je peux te dire que pour moi, le jeu a toujours été sympa. Et puis, ils ont amélioré le jeu au fur et à mesure des années. Ils ont rajouté beaucoup d'options de différents coups. Ils ont amélioré l'équilibre. Ils ont aussi rajouté de nouvelles fonctionnalités, là, avec la mise à jour d'il y a 2 semaines, qui s'appelle le V-Shift, qui change un petit peu la dynamique du combat aussi. Bref, il y a plein de choses. Mais le jeu, oui, je pense qu'on peut dire qu'il est revenu de très loin. Et aujourd'hui, c'est un super jeu, surtout qu'il y a une quantité de contenu phénoménale et qu'on peut l'acheter, je crois, pour le prix du jeu à l'époque, un prix d'un jeu complet, avec la version champion plus le premium pass, machin. Je crois qu'il doit être à 50 euros ou 60 euros et on a tout, 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 tout. Donc, je crois que c'est à peu près ça, le prix. Ouais.
D'accord. Donc, bon. Ah ouais, donc, c'est intéressant.
Tout à fait. Bon. Alors, je voulais évoquer d'autres choses dans l'émission, c'est les petites news. D'abord, des rumeurs d'un report, de multiples reports de Elden Ring. Je sais que beaucoup de gens l'attendent avec impatience, ben toujours pas. A priori, ça sera certainement pas cette année et peut-être pas l'année prochaine, je sais pas. Mais bon, bref, Elden Ring, c'est pas pour tout de suite. On a parlé de Team Asobi, qui est la seule équipe des studios japonais de Sony. Star Wars Squadron est dans le EA Play et donc également dans le Game Pass. Ça, c'est plutôt cool parce que c'est un jeu qui est sorti il y a quelques mois et qui était très bien reçu. Donc bon, vous y jouerez pas avec un joystick super spécial si vous n'en avez pas un, mais c'est quand même un jeu sympa. Et puis, une autre info à propos de EA, tant qu'on y est, Dragon Age 4 a été passé de jeu multi, focalisé sur le multi, à jeu solo. Donc là aussi, il a été retravaillé.
C'est une excellente nouvelle. Ah ouais,
très bonne nouvelle. Alléluia. Voilà.
Il faut avouer que les récents déboires de tentatives dans les jeux multi de différentes sociétés ont peut-être poussé EA à se dire...
Surtout BioWare. Ouais. Non, mais ouais, tu m'étonnes. Et après, a priori, ils ont, ce qui a permis un peu cette décision, c'est le succès de Jedi Fallen Order, en fait. Ils ont été les premiers surpris à ce que le jeu marche aussi bien, et Fallen Order, c'est un jeu 100% solo, hein. Et bon, il y a peut-être une prise de conscience, chez, tout en haut, chez EA, en disant, bon, bah, finalement, les jeux 100% solo, on peut peut-être encore miser dessus, quoi.
Complètement.
Ouais. Oui, il y a des gens qui aiment bien. Voilà. Donc, c'est, voilà, je suis ravie, j'étais ravie par cette nouvelle.
Il y a eu des annonces intéressantes du côté des jeux existants ou non. Valheim a vendu 5 millions d'unités en quoi ? Ça fait un mois ? Ouais.
Ouais.
Un mois après la sortie. Est-ce que vous avez succombé à Valheim, vous deux, ou pas du tout ?
Non, enfin, c'est un sacré phénomène. Je m'y intéresse un peu de loin, mais je vais quand même mettre un doigt dedans. Je pense que c'est pas trop le bon genre de jeu. Donc voilà. Mais...
Alors. Mais justement, ce qu'on en disait la semaine dernière, c'est que Valheim, c'est un jeu de survie, mais pas agressif, pas méchant. Il y a très peu de PVP, tu n'y vas pas si tu veux pas. C'est vraiment de la coop et du jeu en groupe. Donc, c'est un petit peu pour ça que le jeu fonctionne aussi bien. Il a pris la formule de la survie, mais l'a un petit peu adouci, arrondi les angles, quoi. Hogwarts Legacy, le jeu le jeu à venir de Harry Potter, inclura dans sa gestion des personnages et de la création des personnages. En fait, il n'y a pas de genre, ou en tout cas, on peut s'appeler un sorcier ou une sorcière, mais on peut, pour le sorcier ou la sorcière, choisir le type de look qu'on veut, indépendamment du genre. Et c'est notable parce que, en gros, ça veut dire que on peut faire un personnage transsexuel, et c'est notable. Enfin, on choisit ce qu'on veut, hein, dans le look et dans l'identité du personnage. Et c'est notable parce que, évidemment, il y a toute une controverse avec J.K. Rowling, qui a exprimé des opinions assez controversées et qui semble être particulièrement, comment dire, qui est assez transphobique, il semble. C'est une comment ça s'appelle, radical féministe, hating radical féministe. Mais bon. Donc, tout ça pour dire que c'est un petit peu un moyen pour le studio de se distancier de J.K. Rowling. Et visiblement, d'après l'article de Bloomberg, l'équipe de développement était hyper frustrée par ce qui se passe avec la controverse de Rowling, parce qu'ils ont commencé le jeu bien avant toutes ces histoires. En gros, je trouve que c'est un moyen assez malin, si c'est confirmé, hein, c'est encore qu'une rumeur à ce stade, mais c'est un moyen assez malin de mettre une distance avec Rowling et cette controverse, sans explicitement la renier, même s'ils ont dit à plusieurs reprises « Non, Rowling, elle ne travaille pas sur le jeu, elle n'est pas avec nous. » J'ai trouvé ça assez malin. Entre ça et le fait que dans Splatoon 3, on n'aura pas non plus de choix de Inkling mâle ou femelle, c'est une...
Bah, rappelons aussi que dans Animal Crossing, ton personnage, tu peux le faire comme tu veux. Hein. Même si tu choisis à la base, genre, c'est genre fille ou garçon... Mais après, en fait, tu peux mettre une coupe de cheveux de mec à ta fille, et inversement, tu peux t'habiller avec des robes, même si tu as choisi officiellement un personnage masculin. En fait, tu fais absolument ce que tu veux dans Animal Crossing, et ça, c'est cool. Et ce serait bien qu'il y ait plus de jeux qui permettent la liberté, tu fais comme tu veux.
Oui.
Et il y en a un, alors là, dans lequel je ne m'attendais pas du tout, qui fait ça, c'est le dernier Call of Duty, Black Ops Cold War. À un moment donné, tu peux choisir en fait l'avatar, le personnage que tu incarnes, et tu peux choisir homme-femme ou non-genré. Et voir ça dans un Call of Duty, je t'avoue que ça va...
ça fait un peu bizarre, ouais.
D'accord, mais tant mieux, hein, c'est très bien, mais c'est vrai que...
C'est clair,
dans Call of Duty, c'est inattendu, on va dire, inattendu.
Ben voilà, c'est ça.
Il y a un jeu Aliens qui a été annoncé, un jeu, bon c'est un petit peu un Left 4 Dead quoi, mais c'est Aliens Fireteam, qui a l'air assez cool, c'est vraiment un bon look Alien, enfin Aliens avec un S bien sûr, et c'est tellement adapté en fait, je suis surpris que personne n'ait fait avant. Ça a l'air assez cool.
Il y avait eu Alien Colonial Marines qui était une croûte intégrale. Et il y a un jeu qui est beaucoup moins connu pour le coup, mais qui prend un peu ce parti pris, qui s'appelle GTFO, qui est un FPS coop où tu te bats contre des espèces de monstres type alien. C'est apparemment, alors j'ai regardé des vidéos de gameplay, j'y ai pas joué encore, mais c'est très dur et surtout très très anxiogène. Donc c'est vraiment sans pitié. Et je serais pas étonné que l'un s'inspire de l'autre. Enfin, tu vois qu'il y a des acquaintances, mais voilà.
Peut-être, ouais. Donc voilà pour Alien Fireteam. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de notable ? Epic a racheté Mediatronic. Si vous ne connaissez pas le nom, bah, c'est les développeurs de Fall Guys. Donc Fall Guys est maintenant chez Epic. C'était Rocket League. Comment ils s'appellent les développeurs de Rocket League ? Ils ont racheté Rocket League aussi l'année dernière. Donc ils s'offrent des jeux.
Je ne sais plus, mais...
Sionis.
Sionis, très bien. Et Zynga a racheté le studio de Torchlight 3. Torchlight 3, dont la vie a été un petit peu mouvementée, mais maintenant c'est Zynga chez qui ils finissent. Alors, ce n'est pas tout à fait la même écurie, mais c'est bien de voir que Zynga se diversifie, on va dire. Peut-être qu'ils se mettront à faire des jeux multiplateformes ou des jeux consoles, c'est possible.
Je me permets de me faire une honteuse auto-promo. Mais si vous vous intéressez à genre, mais pourquoi y a-t-il autant de rachats en ce moment dans le jeu vidéo ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'acquisitions, de prises de participation minoritaires, d'investissements, de levées de fonds ? Eh bien, tout ça, c'est un article que vous retrouverez sur Le Figaro. Non, j'ai écrit là-dessus la semaine dernière, justement. Donc là, c'est ça. Vous pouvez le trouver sur le site en premium. Et voilà, le fait que là, cette semaine, il y a encore deux nouvelles annonces d'acquisition, ça montre vraiment qu'il y a un mouvement de fond et qui n'est pas prêt de se terminer cette année. Ça va continuer à avoir une consolidation vraiment énorme du secteur. Donc voilà, vous pouvez, vous n'avez pas terminé de voir des studios qui sont rachetés par des éditeurs.
Ben, clairement, il y a une question de... C'est un petit peu, quand on parle de Netflixisation, ce n'est pas le Game Pass qui est le seul concerné, c'est le fait que le contenu est hyper important de plus en plus. Et oui, évidemment, du coup, pour faire du contenu, il faut des gens qui savent faire et des licences. Vous avez vu cette histoire du combat entre Frogwares et Nacon, je ne sais même pas comment on lit le nom, mais c'est le jeu The Sinking City qui est édité par Nacon, a été, selon Frogwares, son développeur, volé par Nacon, et du coup ils ont envoyé un DMCA à Steam pour qu'ils le suppriment de Steam. Enfin, c'est une histoire complètement abracabrantesque, et Nacon a répondu en disant non, attendez, vous dites ça, mais en fait vous avez essayé de sortir du contrat toujours... alors que vous n'auriez pas dû. Oui, pardon.
Non, justement, en fait, c'est de l'autre côté, du côté de Nacon ou Nacon, je sais pas comment on dit, vu que c'est français, oui, mais non, en fait, officiellement, on est toujours votre éditeur, les droits nous appartiennent toujours, il y a que nous qui sommes habilités à le mettre sur Steam ou à le retirer, donc vous n'avez rien à faire dans cette histoire. Bref, c'est une pelote de nœuds, absolument incroyable cette histoire. Donc, ouais, si vous voulez, je pense que c'est impossible de le résumer simplement. Mais hormis voilà, que c'est une bisbille entre un studio et son éditeur pour savoir qui a les droits sur le jeu.
Et je crois que naturellement, on a tendance à se dire « Oh, le pauvre petit studio qui est arnaqué !» Et c'est peut-être le cas, mais c'est tellement difficile de savoir, peut-être que ce n'est pas le cas. Aucune idée. Ça me rappelle un petit peu l'histoire entre Infinity Ward et Activision à l'époque, où Activision avait la licence Call of Duty, commencée par Infinity Ward, et Infinity Ward avait créé Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare, et en fait, ils avaient voulu garder la licence Modern Warfare chez Infinity Ward, et tout ça a mené au final au départ des fondateurs qui ont été faire Respawn, mais c'était une histoire bien compliquée et j'imagine que là, il y a des dessous compliqués également. Et puis quoi d'autre ? Bah écoutez, je crois que c'est à peu près tout. On a une date de sortie pour Subnautica Below Zero le 14 mai. On a... quoi d'autre ? Allez, je vais conclure là-dessus. Je ne vais pas vous parler des non-fungible tokens que j'évoque dans le rendez-vous jeu, mais si vous voulez savoir ce que ça peut changer, les non-fungible tokens pour l'industrie du jeu vidéo et comment ça peut amener la vraie propriété dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que vous seriez propriétaire des objets que vous achetez en jeu, eh ben, vous pouvez aller écouter le rendez-vous tech, ou alors je mettrai un article dans la newsletter, vous pouvez aller regarder ça, mais c'est vraiment un truc, c'est de la blockchain, c'est de c'est lié à la crypto-monnaie, c'est hyper intéressant, mais on ne va pas partir dans cette explication ici. Je vais plutôt pousser un petit coup de gueule sur le concours des jeux de la génération de Game Cult. Alors...
Ah, attention, polémique.
Alors, polémique. Alors, le jeu de la génération selon les joueurs de Game Cult est Zelda Breath of the Wild. C'est marrant parce que la note utilisateur du jeu, c'est 6 sur le site. Et finalement, il se retrouve jeu de la génération.
C'est vrai.
Mais je peux. Ouais. C'est drôle. Mais je peux tout à fait comprendre. Hein. Évidemment, Breath of the Wild, c'est clairement l'un des jeux de la génération. Deuxième, Bloodborne.
C'est un choix complètement logique. Ouais, voilà.
Complètement, complètement. C'est pas là que vient la controverse. C'est pas là. Hollow Knight, God of War, Witcher 3, ok, tout ça, tout va bien. Hades, Death Stranding, je peux comprendre. Même Nier Automata, ok, très bien. Là où j'ai un problème, c'est que si on descend, on continue à regarder, dans les 16 meilleurs jeux, il n'y a pas The Last of Us Part 2. Mais là encore, je peux comprendre. The Last of Us Part 2, ok.
Ah, il n'est même pas dans les 16.
Il n'est pas dans les 16.
Il a été éliminé assez vite, hein.
Il a été éliminé assez vite. Peut-être qu'il est tombé sur quelqu'un, enfin un autre jeu qui était clairement.
Je crois qu'il est tombé face à Breath of the Wild.
Bon, bah voilà.
Moi, j'y suis, j'ai voté, voilà.
Mais du coup,
c'est pas de chance quoi.
Le problème que j'ai en fait au final, c'est que par le truchement de cette malchance du tirage au sort, on retrouve Uncharted 4 dans ce top 16, enfin dans les 16 meilleurs jeux. Et si on se dit The Last of Us Part 2 n'est pas dans les 16 meilleurs jeux, je peux même le comprendre. Mais penser que Uncharted 4 est meilleur que The Last of Us Part 2, ça, messieurs, dames, non. Ça, non. Clairement, tout le monde non. sera d'accord pour dire que Uncharted 4 est moins bon, je pense. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord?
Oui, enfin, moi, tu prêches un converti. Moi, The Last of Us Part 2, je pense qu'il aurait été.
D'accord avec toi.
Peut-être pas le jeu, je suis d'accord avec moi-même, mais voilà. Il aurait peut-être été le jeu de la génération, je ne sais pas, mais il aurait été beaucoup plus loin. Mais après, c'est leur système qui veut ça. Hein.
C'est le tirage au sort, il est tombé.
Ça dépend sur qui tu tombes en face, quoi.
C'est-à-dire que là.
Mais c'est vrai que ça fait bizarre, ouais.
Disons que ce qui est certain dans ce système, c'est que Zelda est le jeu de la génération. Pour les suivants, ça dépend un petit peu contre qui ils sont tombés. Donc, bon, c'est un petit peu...
Ça.
Mais c'est un peu la seule fausse note, je trouve, du résultat final. Et même Uncharted 4, je pourrais comprendre qu'il soit dans le truc, encore que jeu de la gêne, bon, ok. Mais le fait que The Last of Us n'y soit pas et que lui, il y soit, bref, c'est une injustice. Je tenais à la signaler. Écoutez, et c'est sur cet outrage qu'on va finir l'épisode. Merci à tous les deux d'avoir participé. Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver et où on peut avoir plus de vos merveilleuses créations sur Internet? JK, est-ce que tu peux commencer?
Tout à fait. Alors, comme d'habitude, ZQSD, hein, avec un format hebdomadaire et plus court maintenant, mais du coup, ça dure une heure, on discute à deux, c'est plutôt cool. Voilà, un numéro à peu près toutes les semaines, hein, vous commencez à nous connaître, mais globalement, voilà, j'en enregistre un ce soir d'ailleurs avec Sophie, et sur jeuxvideo.com, bien sûr, pour des sujets tech, et dans le journal du hardware, c'est le vendredi à 16h30 sur le stream.
Magnifique, merci beaucoup. Chloé, donc, à part entre acquisition et levée de fonds, le secteur du jeu vidéo est en ébullition sur Le Figaro Tech. Où est-ce qu'on peut te retrouver?
Vous pouvez d'abord me retrouver sur Twitter, @w_Chloé. Évidemment, sur le site du Figaro et dans le journal papier, dans la rubrique économie, où j'écris beaucoup sur la tech. La tech en général et le jeu vidéo de temps en temps. Et aussi sur un autre podcast qui s'appelle Quête Latérale. C'est à peu près un par mois. Donc, j'interviens aussi sur le jeu vidéo.
Magnifique. Merci beaucoup, Chloé. Et bien sûr, les liens vers les comptes Twitter seront dans les notes de l'émission pour tous les deux. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez me retrouver partout sur Internet sous le nom de NotePatrick, y compris sur notepatrick.com, où vous trouverez le lien vers la chaîne YouTube où je faisais un compte-rendu du petit State of Play, mais aussi de ces rumeurs sur la Nintendo Switch, un petit peu plus détaillé que ce qu'on a fait ici, donc youtube.com/notepatrick. Et vous pouvez aussi retrouver le lien vers patreon.com/rdvjeux. Où vous pourrez tout simplement soutenir l'émission, patreon.com/rdvjeux, pour devenir un membre de la communauté active, devenez un héros du financement de podcasts. Vous pouvez choisir le montant que vous voulez et combien de temps vous soutenez sans aucune obligation. J'apprécie énormément le soutien de ceux qui le font déjà et peut-être que si vous aimez bien ce que nous faisons avec cette émission, peut-être que vous voudrez vous aussi devenir un membre de cette merveilleuse communauté avec des petits bonus en plus. patreon.com/rdvjeux. Le lien est également dans les notes de l'émission. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. On va faire un petit after show avec justement les membres de la communauté des Patriotes qui sera disponible dans l'épisode qui est dans le flux privé pour les Patriotes. Donc on va voir de quoi on va discuter. C'est toujours un petit moment sympathique qu'on passe ensemble. Mais pour tous les autres, je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous tout simplement dans une semaine pour le prochain épisode. Ciao à tous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.